RCF.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie de Chambéry vous propose une conférence originale. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Christophe Gauchon, enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est un géographe qui est rattaché au laboratoire EDITEM qui appartient au CNRS. Nous allons nous intéresser à un phénomène administratif qui a existé et qui a disparu, qui est resté un peu fantomatique, qui n'est autre que le département du Fier. Et nous allons essayer de délimiter les circonstances dans lesquelles il a été organisé, prévu, et comment on a retrouvé des traces dans la documentation. Et tout cela à une période difficile de la Savoie, les années 1814-1815. Cette conférence se rattache à la publication du dernier livre de la Société d'Histoire qui traitera justement des événements qui se sont déroulés en Savoie durant ces deux années 1814-1815. Monsieur Gauchon, monsieur le professeur, présentez-nous quelque peu les recherches que vous avez dû entreprendre pour redécouvrir ce département du Fier.
Oui, ce qui est connu sur cette époque de 1814-1815, c'est que pendant un peu plus d'un an et demi, la Savoie s'est retrouvée coupée en deux à la suite du premier traité de Paris du 30 mai 1814. La moitié occidentale, Chambéry, Rumilly, Annecy, restant à la France, et toutes les parties nord, est, sud, Faucigny, Chablais, Tarentaise, Maurienne et Combes de Savoie, étant restituées au royaume de Piémont-Sardaigne après l'épisode napoléonien. Cette configuration territoriale était connue des historiens. Mais en effet, en 2006, dans les fonds des Archives nationales, j'ai eu la chance de trouver une carte dont l'intitulé m'a tout de suite intrigué, puisqu'elle s'appelait « Département du Fier ».
Alors d'où vient ce nom, le Fier ?
Ça correspond à la partie qui était donc restée française et pour laquelle le préfet, préfet Finot, qui était un préfet napoléonien qui avait été maintenu en poste au moment de la Restauration, a envoyé en juillet 1814 un mémoire à Paris traitant des possibilités d'organisation de ce territoire. Et entre autres, le pouvoir central lui avait demandé comment est-ce qu'on pourrait dénommer cette Savoie occidentale restée française et il proposait ce nom de département du Fier, d'où le titre de la carte.
Voilà, c'est un cours d'eau, je crois.
Le Fier, c'est le fleuve qui descend du massif des Bornes, hein, qui prend sa source au pied du Mont Charvin, qui traverse les Bornes d'est en ouest, qui passe juste au nord du lac d'Annecy, puis qui finit par aller se jeter dans le Rhône.
Oui, voilà. C'est ça.
Ce nom n'avait pas été retenu. Et nous, ça nous a amusé de voir ce document, mais finalement, on a continué à appeler ce département « département du Mont-Blanc ». Mais on avait quand même eu cette proposition tout à fait originale, à la fois sur la carte et dans le mémoire de Finot.
Ah oui, c'est tout à fait particulier. Alors, ce document que vous avez découvert donc en 2006, où l'avez-vous recensé pour la première fois ? Est-ce que c'est dans la région ? Est-ce que c'est plus loin ?
Alors, il n'existe qu'en un seul exemplaire, il n'a jamais été édité. Et il se trouve donc aux Archives nationales, au département des cartes et plans. Mais pour essayer de comprendre ce que voulait dire ce document, on s'est lancé dans une enquête. Rapidement, j'ai associé Émilie Dreyfus des bibliothèques municipales de Chambéry, puisque les bibliothèques municipales possèdent un fonds cartographique ancien qui est extraordinairement riche. Et nous avons recherché dans différents fonds d'archives, donc à Chambéry, également aux archives départementales, mais aussi à Turin, à Vincennes, aux archives de l'armée de terre, dans différents fonds d'archives parisiens. Et au final, nous sommes même allés voir du côté des cartes qui étaient conservées à Londres, de telle sorte que nous avons fini par retrouver 19 cartes différentes qui montrait ce dispositif territorial né du partage de la Savoie en mai 1814.
Donc, pour qu'il y ait eu autant de moutures différentes, j'imagine que les discussions ont été âpres, qu'il y a eu beaucoup de débats pour en fixer les limites.
Alors, l'enquête a permis aussi de comprendre justement la nature de ces débats et comment on est arrivé à ce découpage, qui jusque-là était resté un petit peu mystérieux. On a une lettre du plénipotentiaire anglais qui rend compte à Londres et qui dit « Nous avons décidé de laisser la partie plate de la Savoie à la France ». On ne comprenait pas bien ce terme parce que ça comprenait les Bauges, ça comprenait le nord de la Chartreuse,
oui,
ce qui, même vu de Londres, on a du mal à supposer que ce soit plat. Et en réalité, c'est parce que les diplomates qui avaient négocié le traité à Paris au printemps 1814 s'appuyaient sur une carte très 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 imprécise qui donnait l'impression qu'à l'ouest de la haute chaîne des Bauges et des Aravis, il n'y avait plus de montagnes. Et donc, les Autrichiens, les Russes, les Anglais et la diplomatie française, s'appuyant sur ces documents, se sont rangés à l'idée qu'on laisserait la plaine à la France et les montagnes au Piémont-Sardaigne. Et de ce malentendu est né ce partage.
Voilà, oui, tout à fait un malentendu, là, vraiment caractérisé, oui. Donc, vous disiez que vous aviez eu la collaboration d'une personne, d'une bibliothécaire, mais aussi de quelques historiens, peut-être.
Et alors ensuite, dans un deuxième temps, Sylvain Milbach, mon collègue historien de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, a repris le projet d'approfondir cette question de la Savoie en 1814-1815, justement pour préparer ce mémoire de la Société d'Histoire. Et à ce projet ont également été associés Anne-Sophie Nardelli et Romain Maréchal. C'est bien qu'autour de cette petite équipe, nous avons essayé d'étudier les différents aspects du problème posé par cette Savoie coupée en deux.
Oui, oui, c'est très intéressant, oui. Alors, vous parliez des plénipotentiaires. Vous pouvez nous rappeler un petit peu qui est-ce qui se débattait, enfin tout au moins, qui est-ce qui essayait d'assurer le renouveau de l'Europe autour de la Savoie? C'était vraiment le concert des nations.
Voilà, les trois principaux noms qui reviennent, parce que on n'a pas l'impression que les Russes et les Prussiens soient très impliqués, ils ont d'autres problèmes à régler.
Bien sûr, oui.
Les trois principaux noms qui reviennent, c'est Metternich, parce que l'Autriche a beaucoup d'intérêt en Italie du Nord, en Italie centrale, et il est soucieux de laisser des compensations au minimum au Piémont-Sardaigne. Représentant l'Angleterre, Castlereagh, qui est le ministre des Affaires étrangères et plénipotentiaire, et représentant la France, encore à ce moment, le duc de Talleyrand.
Nous allons parler de deux importants ouvrages, l'Atlas des montagnes, qui a été coécrit avec M. Xavier Bernier en 2013, mais aussi la map sarde. Alors, qu'en est-il de ces deux documents?
Dans l'Atlas des montagnes que nous avions édité donc en 2013, nous abordions beaucoup de thématiques sur les montagnes du monde, mais dans la première partie, nous étions intéressés à l'histoire de la connaissance des montagnes, en prenant entre autres la notion de point culminant. Quel est le point culminant de l'Europe, par exemple? Quel est le point culminant des Alpes? Quelle est la plus haute montagne du monde? Et on a là toute une histoire qui accompagne et qui suit plutôt les grandes découvertes, puisque progressivement, au fur et à mesure que les Européens sont allés explorer l'Amérique, les parties du centre de l'Afrique, du centre de l'Asie, on a découvert de nouvelles montagnes dont on ignorait l'existence.
Ah oui,
et donc
oui,
on a là, essentiellement entre le 18e et le milieu du 19e siècle, une découverte des hautes montagnes, d'abord les Alpes, et ensuite des montagnes qu'on n'avait pas soupçonnées, qui étaient plus hautes que les Alpes. Dans la première partie du XVIIIe, On pense que les montagnes les plus hautes du monde, ce sont les Andes centrales, du Pérou et de l'Équateur.
Oui.
Suite à différentes expéditions scientifiques, je pense en particulier à celle de Lacondamine, qu'il avait menée dans les années 1730, et là on mesure des sommets qui dépassent 5000, qui approchent 6000 mètres d'altitude, dont on n'a pas l'équivalent en Europe. Puis, à la fin du 18e et au début du 19e, les Anglais vont commencer à prendre pied dans le nord de l'Inde et à découvrir les sommets de l'Himalaya sans pouvoir s'en approcher, puisqu'il s'agit de territoires qui leur sont interdits. Et les Anglais, dans les années 1840, vont mesurer les plus hautes montagnes du monde, y compris l'Everest, à plus de 150 km de distance par des procédés d'optique.
Oui.
Et on va établir, dans les années 1840, que les plus hautes montagnes du monde sont dans l'Himalaya, ce
qui auparavant pas en Europe.
Ils ne sont pas dans l'Europe, ni même dans les Andes.
Oui, oui.
Voilà.
Alors, plus ou moins à la même époque, il y a Bénédicte de Saussure qui commence ses grandes randonnées à travers les Alpes, à pied, et qui met au point d'ailleurs des instruments, des altimètres et autres, pour mesurer les altitudes, les températures. Enfin, il fait toutes sortes de découvertes également scientifiques. Et ses mémoires sont tout à fait intéressantes pour rendre compte de ses randonnées, avec d'ailleurs une très belle plume. Hein. Ce sont des scientifiques qui avaient à cette époque-là une bien belle plume. Alors, nous avons en Savoie un document tout à fait exceptionnel qu'on appelle la map sarde. Vous pourriez nous en tracer un petit peu les grandes lignes ?
Oui, bien sûr. La map sarde, c'est un document cadastral qui a été confectionné entre 1728 et 1738. Et sont surtout connues les cartes, ce qu'on appelle les maps au sens propre, qui sont des cartes levées pour chacune des communes du duché de Savoie au 1/2400, c'est-à-dire une échelle extrêmement précise. Et ces cartes s'accompagnent de nombreux documents annexes que sont les registres des numéros suivis, les registres des propriétaires, qui permettent à chaque parcelle d'affecter un propriétaire et aussi une assiette fiscale qui va permettre de faire rentrer l'impôt.
Oui, c'est ça, c'est un document
C'est un document
comptable,
qui a essentiellement une finalité fiscale.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Et on avait étudié cette MAPSARDE dans le cadre de la thèse de Dominique Beau, qui est maintenant enseignante à l'université de Grenoble. C'est un document qui a beaucoup retenu l'attention des historiens, des géographes. Je pense à l'article fondateur de Paul Guichonnet en 1955.
Oui.
Et qui reste un document d'une telle richesse qu'on a l'impression que seulement une toute petite portion de son contenu a été vraiment comprise jusqu'à présent.
Oui, c'est très possible.
Nous, on s'en était servi surtout pour essayer de comprendre l'évolution des paysages.
Oui.
Puisque cette map sarde donne un instantané de ce que sont les paysages de chaque commune de Savoie dans les années 1728-1731, les cultures.
Oui, oui, je crois qu'il y a un vocabulaire d'ailleurs assez étonnant. Il y a les blaches, enfin, il y a des vocabulaires.
Les blaches, les tepes.
Oui,
donc
tep,
il y a
voilà,
toute une approche effectivement lexicale d'ailleurs pour comprendre dans un premier temps à quel type d'usage du sol renvoie chacun de ces termes.
Oui.
Et ensuite, il y a une cotation de chaque parcelle en fonction de ce qu'on appelle son degré de bonté. C'est-à-dire sa qualité agronomique,
voilà,
sa rentabilité.
Oui.
Et si le sol est censé avoir un bon degré de bonté, il va produire beaucoup et donc le fisc pourra taxer beaucoup cette parcelle.
Le propriétaire sera bien imposé.
Et inversement, oui, pour une parcelle qui est affichée avec un mauvais degré de bonté.
Eh oui. Alors, je me rappelle avoir vu ces cartes, enfin, beaucoup de nos auditeurs les connaissent, et avec les maisons soulignées en rose. Et les jardins autour des maisons symbolisés en jaune. Et c'est là qu'on voit qu'il y avait quelques beaux jardins avec des parterres géométriques en Savoie. Et c'est un document extrêmement vivant. Et souvent, on retrouve le tracé des chemins, des cours d'eau évidemment, mais aussi des chemins qui sont parfois des chemins de randonnée maintenant, mais qui existent toujours.
Et c'est aussi un document extrêmement pionnier, puisque à l'échelle d'un grand-duché de plus de 600 communes, comme l'était la Savoie à l'époque, c'est la première fois en Europe qu'on se lance dans une entreprise cadastrale aussi ambitieuse. Et quand la France, à son tour, en 1803, lancera son cadastre, le préfet de la Savoie, le préfet du Mont-Blanc, demandera à Paris des instructions en disant « Mais nous, ici, il semblerait qu'on ait déjà un cadastre de grande qualité.
Et
est-ce
oui.
qu'on doit refaire le travail ?»
Et oui.
Et effectivement, Paris tiendra compte de l'existence de ce cadastre sarde pour alléger, faciliter le travail sur le terrain.
Oui, d'un point de vue technique, c'était vraiment un tour de force, hein, je crois, vu l'ampleur d'ailleurs des cartes réalisées elles-mêmes.
Et toute la map a été levée en l'espace de 3 ans, entre 1728 et 1731. Les années qui suivent correspondent à du travail de bureau, davantage.
Oui.
Ce qui signifie qu'en trois étés, trois hivers, l'ensemble du duché a été couvert, y compris pour certains secteurs, jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude.
Ah oui, 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 c'est ça. Oui, rien n'est négligé,
oui.
Vraiment.
Je pense en particulier à la Haute-Maurienne, des communes comme Bonneval et Bessan, qui à l'époque ne forment qu'une seule communauté, sont cadastrées jusqu'au plus haut sommet.
Ah oui, oui, il y avait de la bonne volonté de la part. Surtout que c'était souvent des Italiens, parce qu'on voit les signatures, souvent ce sont des noms italiens, donc des gens qui venaient dans la région.
Le royaume avait organisé une école d'agrimenseurs, c'est-à-dire de géomètres au sens propre,
absolument.
À Turin, et en bénéficiant sans doute de l'expérience acquise dans le Milanais.
Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives dans le Milanais,
voilà,
je crois.
Voilà, exactement. Hein. Et comme les relations étaient bonnes à cette période-là avec les Autrichiens du Milanais, il y a eu probablement transfert d'expérience.
Oui, oui. Non, mais c'est un document remarquable. Peut-être est-il associé à l'exposition qui a lieu actuellement à la bibliothèque, ou parce qu'il y a une belle exposition sur la cartographie, je crois.
Oui, en effet. Mais c'est plutôt une exposition. Alors, elle est intitulée « Agrandir le monde » à la bibliothèque municipale de Chambéry, et elle est plutôt liée au fonds ancien de cartes du monde, c'est-à-dire surtout l'exploration de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, et donc des cartes entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
Poursuivons notre discussion et maintenant nous allons essayer de considérer et de mieux découvrir, à côté de la géographie physique qui parle des reliefs, il existe aussi une géographie des patrimoines qui est un aspect beaucoup plus contemporain et tout à fait intéressant dont M. Gauchon va nous parler.
Au laboratoire Editem, nous sommes plusieurs en effet à nous intéresser à cette question. Et géographie des patrimoines, pas seulement de ce qu'on a habitude d'appeler les patrimoines naturels, mais de façon beaucoup plus large, l'ensemble des biens, des paysages, des objets que nos sociétés ont pris l'habitude de patrimonialiser. Et comme nous sommes géographes, nous intéressons en particulier aux espaces protégés, par exemple, qui typiquement sont des espaces qui font l'objet de dispositifs particuliers pour protéger et valoriser les patrimoines qui se trouvent à l'intérieur. Alors l'intérêt, c'est que dans les Pays de Savoie, nous avons quasiment toute la panoplie qui est représentée de ces espaces protégés.
Ah oui, bien sûr.
Et donc ça constitue un terrain d'étude qui est extrêmement riche, avec le parc national de la Vanoise, bien sûr,
oui,
mais aussi qui est le plus ancien en France, mais aussi les parcs naturels régionaux des Bauges et de Chartreuse, qui ont fêté l'an dernier leurs 20 ans d'existence.
Oui, oui, oui.
Un certain nombre de réserves naturelles, une quinzaine environ de réserves naturelles nationales réparties entre les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie, et également des pays d'arrêt d'histoire, villes d'arrêt d'histoire. Et donc, nous, en tant que géographes, nous intéressons beaucoup à ce que ces espaces protégés nous disent du fonctionnement des territoires.
Oui, c'est une approche un peu nouvelle par rapport aux urbanistes, aux aménageurs, aux gens qui réfléchissent un petit peu sur les métropoles. Vous avez, vous, une approche complémentaire et tout à fait et beaucoup plus globale, en fait.
On n'est pas forcément compétent sur les objets patrimonialisés eux-mêmes. On n'est pas architecte, on n'est pas urbaniste, on n'est pas historien de l'art. Donc, c'est pas nous qui allons porter une appréciation sur telle église baroque ou sur telle fortification.
Bien sûr.
Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir la place que ces objets occupent dans le territoire et comment les acteurs du territoire se positionnent par rapport à ces objets. Sachant qu'il n'y a pas toujours consensus. Le patrimoine, il s'accompagne aussi de conflits, de contestations, parce que il passe par la mise en place de mesures de gestion que certains acteurs vont trouver trop restrictives, ou alors vont avoir l'impression d'être dépossédés de leurs prérogatives habituelles. Et c'est surtout cette entrée-là qui nous intéresse, de voir comment, sur les territoires, les acteurs acceptent ou non la patrimonialisation de tel ou tel type de bien.
Ah oui, oui, je comprends, bien sûr, oui, oui, oui.
Et je pense entre autres à un exemple sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est un projet de recherche qui est mené par ma collègue Mélanie Duval sur les sites palafitiques, c'est-à-dire les habitats lacustres que nous trouvons dans le lac Léman, lac d'Annecy, lac du Bourget, lac d'Aiguebelette, hein, pour citer les principaux en Savoie,
oui,
qui depuis 2011 sont inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO, et dont cette inscription, qui d'habitude est très recherchée et dont tout le monde fait grand cas, dans ce cas particulier, est relativement peu connue, y compris les acteurs eux-mêmes, jusqu'à il y a quelques mois en arrière, n'arrivaient pas à s'approprier le fait qu'ils avaient chez eux un site inscrit au patrimoine mondial. Et ça, c'est vraiment un terrain d'étude quasiment unique, hein, il y a peu d'équivalents dans le monde qui soient connus, d'une reconnaissance patrimoniale qui est venue de l'extérieur. C'est une initiative principalement qui a été prise par les archéologues suisses, qui a été étendue à l'ensemble de l'arc alpin, et que les acteurs locaux ont du mal à s'approprier. Et ça, c'est vraiment une espèce de laboratoire in vivo de la patrimonialisation dans les pays de Savoie.
Oui, oui, parce que ça, c'est une richesse. On a tous entendu parler des cités littorales à l'âge du bronze.
Exactement.
Et les ingénieux fabricants d'objets en métal, la première métallurgie, et des techniques aussi très avancées pour la pêche, pour la céramique. Oui, c'est caractéristique de nos lacs, tout à fait. Ça a été une période florissante avant l'âge du fer, justement, qui par contre a pu détruire beaucoup plus. Ces palafites ont fait l'objet de recherches au 19e siècle et constitue une partie des richesses du musée savoisien actuellement.
Bien sûr, puisque dès la fin du 19e siècle, il y a eu toute une archéologie, une proto-archéologie subaquatique rudimentaire, qui consistait essentiellement en une pêche aux vestiges, qui a été bien documentée. Je pense en particulier au travail que fait notre collègue Yves Billot, de la direction des recherches archéologiques subaquatiques, dont les dépôts est à Bassins, hein, pour la région de la Savoie, et qui à la fois a retracé l'histoire de ces recherches archéologiques et en même temps continue lui-même à fouiller et à documenter les sites du lac du Bourget et du lac d'Annecy.
Eh oui. Alors la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie est liée à ces recherches d'antiquité, enfin qu'on appelait les antiquités à l'époque, mais qui étaient quand même préhistoriques, puisque Monsieur Rabu, enfin l'un des deux frères Rabu, fondateur de la Société d'Histoire, a beaucoup contribué à ces fameuses pêches, repêchages d'objets antiques et a donc remis tous ses dépôts, toutes ses trouvailles au musée savoisien. Je crois que vous aviez l'intention de terminer en parlant un petit peu de votre vocation d'enseignant-chercheur et nous montrer un petit peu l'intérêt de ce travail et le côté vivant, comme cette émission vient de le montrer, le côté vivant de vos recherches et la façon dont vous êtes impliqué.
Oui, vocation, je ne sais pas, mais en tout cas dans la pratique, hein, de notre travail d'enseignant-chercheur à l'université, on essaye effectivement dans les différentes filières du département de géographie d'impliquer le plus possible nos étudiants, surtout à partir de la troisième année de licence et puis surtout à partir du master, sur ces thématiques de géographie des patrimoines. Parce que c'est extrêmement riche, il y a encore énormément de travail à accomplir. Et donc depuis une dizaine d'années, nous avons un cours en troisième année de licence de géographie des patrimoines
que nous avons
créé ici et que nous assurons avec Mélanie Duval. Et dans les années de master 1 et 2, nous avons des modules de géographie autour de la gestion et de la valorisation des patrimoines alpins.
Oui, oui, ça c'est vraiment c'est une option enfin quelque peu nouvelle, complémentaire et qui permet à des étudiants de poursuivre des études géographiques sous un angle un peu particulier. Alors amis aux amateurs de géographie et également à tous nos auditeurs qui sont intéressés par l'histoire. Nous allons nous quitter et je vous remercie de votre écoute et je remercie bien vivement le professeur Gauchon pour sa prestation et il a été très aimable de nous rejoindre. Au revoir.
Merci beaucoup.